Laudetur Jesus Christus.
Mieux se connaître pour mieux discerner, c'est l'enseignement du pape François lors de l'audience générale ce matin. Il invite, nous l'entendrons, à un travail d'introspection. Un an après la publication du rapport de la CIAZ sur les abus sexuels au sein de l'Église de France, quel chemin a été parcouru? Nous en parlons avec la sociologue Céline Béraud. En Iran, les manifestations se poursuivent, également la répression. Les Occidentaux entendent sanctionner la République islamique. En Équateur, nouveaux affrontements et mutineries dans les prisons. Depuis février 2021, 400 détenus ont été tués derrière les barreaux.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Le discernement implique un patient travail d'introspection. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèses consacré au discernement spirituel. L'évêque de Rome l'a relié cette fois-ci à la connaissance de soi, nécessaire, dit-il, pour discerner la présence de Dieu. Les explications de Delphine Allaire.
L'oubli de la présence de Dieu dans notre vie va de pair avec l'ignorance sur nous-mêmes. Ainsi, selon le pape, les doutes spirituels et les crises de vocation sont souvent liés à un dialogue insuffisant entre la vie religieuse et notre dimension humaine, cognitive et affective. Se connaître soi-même n'est pas difficile, mais c'est fatigant, reconnaît François. Cela requiert la capacité de s'arrêter, de désactiver le mode pilote automatique pour prendre conscience de notre façon de faire, des sentiments qui nous habitent, des pensées qui nous conditionnent souvent à notre insu, poursuit-il. Le pape a réaffirmé là la distinction entre les émotions et les facultés spirituelles. S'en rendre compte est une grâce, dit le pape.
Mais que la vie spirituelle ha le sue password. Ci sono parole che toccano il cuore perché rimandano a ciò che per cui siamo più sensibili.
La vie spirituelle a aussi ses mots de passe. Il y a des mots qui touchent le cœur parce qu'ils font référence à ce à quoi nous sommes le plus sensibles, a soutenu le Saint-Père. Or, dit le pape, le tentateur connaît bien ces mots-clés. Il est donc important que nous les connaissions aussi. L'examen de conscience peut aider en cela. En effet, la prière et la connaissance de soi permettent surtout de grandir dans la liberté.
Delphine Allaire. Et pour retrouver le contenu de cette audience générale et toute l'actualité du pape François, une adresse internet www.vaticannews.va. C'était il y a un an, l'onde de choc dans l'Église de France. La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, publiait son enquête, dévoilant que plus de 330 000 mineurs avaient été victimes d'abus sexuels en France depuis 1950 au sein de l'Église catholique. Le rapport Sauvé mettait en lumière un mal à caractère systémique, reconnu quelques semaines plus tard à Lourdes par les évêques. Alors depuis, quel chemin a été entrepris par l'Église de France? La réponse de Céline Béraud, sociologue, auteur de l'ouvrage « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ».
Il y a eu des groupes de travail hein, qui étaient mis en place par la Conférence des évêques de France sur un certain nombre de thématiques qui avaient été pointées comme nécessitant justement une réflexion par la Commission Sauvé. Il y a eu deux instances aussi, une côté CEF avec Marie Derain de Vaucresson et une autre côté COREF avec Antoine Garapon sur justement la question de l'accueil des victimes, de leur accompagnement et aussi d'un geste posé par l'Église, qu'il soit financier ou d'une autre nature. Il y a toute une réflexion sur les formes de justice restauratrice. Ensuite, ce qui s'est fait plus localement, il y a eu effectivement dans beaucoup de diocèses, à l'échelle des paroisses souvent, mais probablement aussi à l'échelle de certains mouvements, hein, des rencontres justement pour que la parole puisse exprimer l'émotion des fidèles qui ont été quand même très secoués hein, par ces révélations. Moi, ce que j'ai observé, c'était souvent la lecture de témoignages de victimes. L'idée, c'était vraiment de faire entendre la parole des victimes qui avaient été recueillies par les membres de la commission. Il y a un autre moment qui est important, qui arrive tout de suite après en fait, c'est le moment de la démarche synodale. Ça a été aussi, je pense, une occasion pour un certain nombre de catholiques, pareil, quoi, dans des paroisses, dans des mouvements, là où la démarche synodale a pris forme, hein, et elle a pris forme dans des lieux variés d'église, pour là aussi réexprimer parfois leurs émotions ou leurs demandes de changement.
La sociologue Céline Béraud, elle était interrogée par Olivier Bonnel. Le président russe Vladimir Poutine a signé ce matin la loi d'annexion de 4 régions ukrainiennes. Après le vote organisé dans le sud il y a une dizaine de jours, les textes signés stipulent donc que les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijja sont acceptées au sein de la Fédération de Russie et nomment à leur tête des dirigeants de Moscou. Parallèlement, ces dernières heures, l'Ukraine revendique des avancées militaires dans ces mêmes régions annexées. L'Union européenne, elle, s'est mise d'accord sur un nouveau paquet de sanctions. Elle se seront publiés demain au journal officiel. Les bouillonnements en mer Baltique continuent au-dessus des fuites des gazoducs russes Nord Stream. Selon la Suède et le Danemark, ces fuites ont été provoquées par des explosions sous-marines équivalent à des centaines de kilos de CNT, de TNT. Elles ont libéré des milliers de tonnes de méthane dans la mer Baltique. La Suède se charge donc pour l'instant de l'enquête à laquelle la Russie demande de participer. Pas de pause dans la répression en Iran. Les manifestations se poursuivent et le pouvoir continue d'utiliser la force pour les réprimer. Impossible de savoir avec précision le nombre de victimes, mais selon plusieurs sources, elles se compteraient en dizaines, sans oublier les arrestations de manifestants. Deux semaines et demie après le début de ce mouvement, l'Union européenne finit par réagir, Xavier Sartre.
Oui, pour l'instant, Marine, on est encore au stade des mots. Hier soir, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé que l'Union voulait sanctionner par des mesures restrictives le meurtre de Mahsa Amini, la jeune fille tuée en prison alors qu'elle avait été arrêtée pour ne pas porter le voile islamique. Josep Borrell n'a cependant donné aucune précision sur la nature de ces sanctions. Le flou est de mise également concernant celles que s'apprête à prendre Washington. Lundi, Joe Biden, le président américain, s'est dit gravement préoccupé par les informations sur la répression en Iran. Les États-Unis sont aux côtés des femmes iraniennes et de tous les citoyens iraniens dont le courage est une inspiration pour le monde, a-t-il déclaré. Des sanctions seront infligées, a-t-il promis, mais là non plus donc, sans donner plus de détails. Mais elles s'ajouteront à celles qui visent déjà Téhéran et qui sont liées à son programme nucléaire. Le dossier du nucléaire, justement, pourrait peut-être expliquer cette relative discrétion des Occidentaux sur la répression en cours. Pour les Occidentaux, en effet, le plus important, c'est de convaincre l'Iran d'abandonner toute prétention nucléaire dans le domaine militaire. Ces manifestations marines leur compliquent donc la tâche.
Merci Xavier. Xavier Sartre, l'Iran frappé ce matin par un séisme dans l'ouest. Plus de 500 personnes ont été blessées, une cinquantaine de maisons détruites. Au Liban, une nouvelle dramatique illustration de la crise en cours. Une députée tient actuellement un sit-in dans une banque. Elle réclame son argent bloqué afin de pouvoir se payer une opération à l'hôpital. Plusieurs militants l'ont rejoint sur place. Au pays du Cèdre, les braquages de banques se multiplient ces dernières semaines. Des citoyens qui cherchent à récupérer leurs propres économies, bloquées depuis 3 ans à cause de la crise économique et financière. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu ce matin dans le stade où a eu lieu le mouvement de foule meurtrier samedi soir, qui a fait au moins 130 morts. Il a annoncé un audit de tous les stades du pays pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Et pendant ce temps, l'enquête continue pour notamment déterminer les responsabilités de la police et comprendre pourquoi certaines portes de sortie du stade étaient fermées. De nouveaux affrontements ont éclaté hier dans une prison en Équateur, au lendemain de violences entre détenus qui avaient déjà fait au moins 16 morts. Un problème récurrent dans un pays où la surpopulation carcérale dépasse les 30%. Les précisions de notre correspondante dans la région, Léa Morillon.
Il n'y a pas eu de nouvelles victimes hier dans le centre pénitentiaire de Latacunga. La veille, l'une des plus grandes prisons équatoriennes située au sud du pays a été le théâtre d'affrontements entre détenus qui a fait 15 morts et plus de 30 blessés. Tous ont été tués à l'arme blanche ou par arme à feu. Parmi les victimes se trouve Leandro Norero, surnommé El Patron, qui a été arrêté en mai dernier pour blanchiment d'argent. Lié au trafic de drogue, l'homme serait devenu l'un des chefs parmi les détenus. Les gangs gèrent souvent le trafic de drogue depuis les centres de détention en Équateur et se font la guerre à l'intérieur comme à l'extérieur pour dominer le marché. Jusqu'à présent, les autorités se sont montrées incapables de juguler ces violences, souvent perpétrées à l'arme blanche et marquées par des décapitations et autres actes de barbarie. Depuis février 2021, le système pénitentiaire équatorien a connu 8 massacres entre détenus, ayant fait au total plus de 400 morts. Léa Morillon pour Radio Vatican.
Le gouvernement éthiopien accepte de participer à des discussions avec les opposants tigréens. Des pourparlers sur invitation de l'Union africaine, les autorités du Tigré, elles, n'ont pas encore confirmé leur participation. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris fin août dans le nord de l'Éthiopie, entre le gouvernement éthiopien soutenu par les forces de l'Érythrée et les rebelles du Tigré. L'information du Vatican, de l'Église et du monde revient tout à l'heure à 18h en direct de Rome. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook et Twitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.